Bienvenue sur Canomer, l'émission de web radio de Réseau Canopée en direct de la mer XXL, l'exposition extraordinaire à Nantes.
Bien, bonjour, nous allons passer dans ce second temps de web radio sur cette manifestation en mer XXL, exposition extraordinaire, avec cet après-midi pendant quelques minutes. Je veux dire, un horizon autour de ce qu'on entend par mer et éducation quelle est la dimension maritime dans l'éducation. L'intérêt d'une table un petit peu ronde comme nous avons cet après-midi, c'est d'avoir des regards avec des responsabilités différentes sur le sujet. Donc je vais demander à chacun, monsieur Tristan Lecoq, madame Morin et puis madame Tressé, de vous présenter, que les auditeurs puissent faire votre connaissance, de présenter vos missions, votre présence ici. Ensuite je lancerai les débats par quelques questions. Monsieur Lecoq.
Merci Bertrand. Je m'appelle Tristan Lecoq, je suis inspecteur général de l'éducation nationale en histoire et géographie, professeur des universités à la Sorbonne où j'enseigne l'histoire militaire et maritime. Je préside le jury d'agrégation d'histoire et de géographie et je suis capitaine de vaisseau de la réserve opérationnelle de la Marine nationale.
Voilà. On expliquera donc que ce n'est pas un parachutage de Paris, mais que nous sommes bien là avec le spécialiste au sein du ministère de l'Éducation nationale du sujet de la dimension maritime. Madame.
Bonjour, donc je suis Christine Aurin, je suis conseillère départementale et vice-présidente en charge de l'éducation au département de Loire-Atlantique, plus précisément qui a pour la compétence de s'occuper et de suivre les collégiens du département.
Madame Tressé.
Et moi, donc, je suis chargée des projets éducatifs pour les espaces muséographiques de la Célor, dont la Cité de la Voile, le sous-marin Flore, pour la partie mer.
Bien, écoutez, moi, je vous propose de lancer le tour de table autour du thème de la dimension maritime, avec d'abord une observation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médias reprennent ce qui touche, ce qui peut être relativement un peu de l'affectif, parfois même aussi autour de la mer, avec non pas quelque chose qui ne serait pas aujourd'hui important, mais autour des enjeux écologiques et puis de ces enjeux parallèles économiques. Je pense qu'effectivement c'est important. Ce n'est pas forcément le tour de table sur ce thème-là spécifiquement que nous allons faire, parce que j'aimerais aussi que nous puissions ensemble aborder la question de la géographie et de la politique, et puis également du maritime et du militaire. C'est-à-dire que, comme on le disait récemment, l'océan c'est la vie. En quoi aujourd'hui on considère que c'est la vie? Et encore on considère que c'est la vie au-delà de tous ces enjeux, certes très importants, et autour écologique essentiellement, vu aujourd'hui par le prisme média, mais en quoi aujourd'hui il y a d'autres choses derrière. Il y a demain, et on l'entend dire, des métiers qui seront plus nombreux autour des métiers de la mer que des métiers de la terre, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Alors je sais qu'on n'a que quelques minutes et que nous n'avons pas deux heures, mais je pense quand même qu'on peut aborder le sujet. Donc Tristan Lecoq, donc... responsable également par une lettre de mission du ministre de la dimension maritime dans les programmes, la réforme des lycées, les nouveaux programmes du lycée. Ceci s'inscrit que dans une continuité. Comment aujourd'hui on peut qualifier l'évolution dans les programmes scolaires de la dimension maritime?
Alors, je crois que la première remarque, c'est que la mer a monté dans l'éducation nationale. On a mis du sel dans les programmes depuis une dizaine d'années à peu près. Le tournant vient d'ailleurs en bonne partie de cette dimension environnementale que vous citiez. Moi, j'ai été très frappé dans le grand débat organisé à l'initiative du président de la République que une question, et la seule question d'un collégien à Bourtroude, pas loin de chez moi, je suis à Vray, ça a été sur les questions d'environnement et sur les questions d'environnement maritime. D'ailleurs, dans la synthèse qui a été faite par le cluster maritime français du Grand Débat, les questions maritimes, les questions d'environnement, les questions de littoraux ont été à l'ordre du jour. Alors, il faut y répondre, parce qu'on le sait, c'est très important, comme le dit Maud Fontenoy, sauver l'océan, c'est sauver l'homme. Et donc, c'est un point important. Ça ne résume pas l'enseignement du fait maritime, naturellement, loin s'en faut, mais c'est un point important. Alors, depuis une dizaine d'années, la mer a monté dans l'éducation nationale, d'abord en histoire et en géographie, et puis peu à peu aussi bien dans les arts, dans la littérature, dans les sciences exactes ou expérimentales. Ça a été la volonté de l'inspection générale de l'éducation nationale, singulièrement en histoire et en géographie. On a commencé par les programmes de collège en 2016, et puis aujourd'hui on a dans les programmes de lycée le fait maritime en histoire, en géographie politique, en géopolitique, qui a peu à peu réussi à couvrir l'ensemble du champ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 45 000 enseignants d'histoire et de géographie, dans le public comme dans le privé, enseignent à 6,5 millions d'élèves le fait maritime, qui est désormais inscrit dans les programmes. Ce n'est pas tout. L'éducation nationale, en fait, repose sur trois piliers importants. Il y a naturellement les programmes et leur déclinaison. Il y a le recrutement et la formation des enseignants, formation initiale et formation continue. Et je vais vous en donner des exemples qui satisferont, j'en suis sûr, nos deux partenaires, parce que c'est aussi sous le signe du partenariat qui est placée cette affaire, parce que l'institution scolaire ne peut pas tout, loin s'en faut. Les collectivités territoriales, c'est l'ancien maire adjoint du Havre qui parle, sont un partenaire permanent de l'institution et des associations, et en particulier celle de la Fédération française de voile ou les associations voileuses, si vous me permettez cette expression, qui sont pas seulement une école de mer, mais une école d'énergie, une école de courage, une école de comportement. Et tout ça, c'est extrêmement important pour nous. Je parlais des programmes, mais il y a aussi donc le recrutement des enseignants. Nous avons fait rentrer la géographie des maires et des enseignants comme le programme de recrutement au CAPES et à l'agrégation d'histoire et de géographie. Et nous avons fait rentrer également un très beau sujet que, évidemment, le conseil départemental de ce beau département connaît par cœur, et vous aussi, madame, qui est la géographie et les espaces du tourisme et des loisirs. Et ça permet d'évoquer les questions comme la voile, les questions comme la mise en valeur des littoraux. Et puis il y a la troisième dimension, et c'est là où Canopée joue un rôle absolument central, qui est la dimension des ressources. Parce que la mer, ça s'enseigne, et pour s'enseigner, ça s'apprend. Et pour l'apprendre, il faut non seulement former les enseignants, mais mettre à leur disposition des outils comme celui que vous avez, Enseigner la mer, qui a été publié en 2016 par Canopée, et qui est complété par un site pédagogique dans lequel on peut trouver 22 séquences qui vont de la 6e au lycée généraux, technologiques et professionnels, 150 documents en accès libre, merci pour Canopée pour les accès libres de droit, et 200 heures de cours. Donc c'est véritablement un ensemble qui est à la fois environnemental, historique, géographique, dans la profondeur de la réflexion, et surtout qui est tourné vers le présent. Parce que nos élèves, naturellement, ils sont satisfaits quand on parle de leur passé, mais ce qui les intéresse, on peut le comprendre, c'est aussi leur présent. Et la mer, et on y reviendra probablement, et j'arrêterai là-dessus, la mer, c'est aussi pour nos élèves un champ des possibles. C'est quelque chose qui prévoit le dépassement, qui permet le dépassement, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important.
Très bien, merci. Madame Morin, là, cette dimension maritime, là, vous la vivez concrètement, parce qu'à un moment ou à un autre, quand on est en position qui est la vôtre, on fait des choix, on prend des décisions. Faire des choix, c'est parfois renoncer à certaines choses. Aujourd'hui, la politique du conseil départemental dans cette dimension maritime éducative, puisque vous avez en charge bien sûr les collèges, eh bien, comment est-ce que concrètement ça se met en place dans votre département?
Alors écoutez, d'abord merci pour cette invitation à cette table ronde. Alors nous sommes partenaires, le département de Loire-Atlantique, dans cette manifestation, la mer XXL. Pourquoi cette manifestation et comment ça a été décidé? C'est qu'au fond, nous sommes un département littoral, hein. Nous avons plus de 130 km de côte, hein, sur notre département. Donc nous sommes un département qui est tourné sur la mer. Pour autant, c'est le constat que nous avons fait, c'est qu'au fond, la population n'a pas toujours été, elle, tournée vers la mer. Elle a parfois tourné le dos. Je pense à des villes comme la ville de Saint-Nazaire, qui est en train de découvrir son littoral, qui est en train de découvrir la mer sur différents points. Alors, d'abord sur le point de l'éducation, c'est-à-dire qu'on commence à développer dans les établissements scolaires l'initiation à la voile. L'initiation, c'est comment on découvre la mer, d'abord comment on apprend à nager aussi, comment on apprend à maîtriser, enfin à se sentir bien sur cet espace d'océan. Et puis aussi, on a des métiers. On a les métiers de la mer, on a la turbale qui est, je crois, la deuxième plus grande criée de France, hein, et qui est un port de pêche important, hein, et un port de sardines et autres poissons, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un port maritime important, un port de pêche important. Et c'est comment, au fond, on s'approprie à la fois l'aspect touristique, sportif, et comment on maîtrise cette mer qui est parfois impétueuse et difficile. Et c'est aussi comment on développe les métiers de la mer. Et c'est pour ça que nous essayons, à travers des stages plateforme 3e, de développer et d'orienter les jeunes à faire leur stage 3e avec des marins pêcheurs, avec du personnel de la criée. Également, on a quand même, pour rappeler, on est un département qui construit des paquebots. Alors bon, on peut contester l'existence de ces paquebots sur un plan carbone et sur la pollution que ça peut entraîner. Mais ça n'empêche que c'est un développement économique important. Qui fait vivre notre département, qui fait vivre la ville de Saint-Nazaire. Et c'est comment j'ai rencontré dernièrement le président des chantiers de l'Atlantique en disant, écoutez, on a des jeunes sur notre département, comment on les initie à ces métiers de la mer, à ces métiers de la construction navale. Parce qu'au-delà même des paquebots, c'est quand même la construction navale. Donc cet événement, il est d'abord pour faire prendre conscience aussi dans lequel on se trouve aujourd'hui, si nous sommes partenaires, c'est qu'il y a cet aspect donc, métier, cet aspect sportif, touristique, mais c'est aussi la fragilité, la vulnérabilité de nos océans. C'est aussi ça qu'on est là pour aujourd'hui aussi dans cet événement. C'est comment aussi on amène nos collégiens à réfléchir sur l'impact de nos vies et sur les risques qu'on fait courir lorsqu'on laisse un papier, un plastique sur une plage. Et donc c'est tout, cette éducation, moi je dirais une éducation, je parle de citoyenneté maritime. On parle vraiment de citoyenneté maritime. C'est global en fait, hein. C'est comment la mer, on s'en méfie, on est là, elle est dangereuse, mais elle est aussi partenaire de nos vies. Et c'est tous ces enjeux éducatifs que nous devons mener au sein de notre département et que nous essayons de mener au mieux.
Merci, Mme la vice-présidente. Madame Tresseron, quand on est responsable pédagogique, cité de la voix d'Éric Tabarly de Lorient, on a envie de poser la question, c'est-à-dire que vous faites quoi?
Alors, qu'est-ce que je fais moi ou qu'est-ce qu'on propose?
On parle de pédagogie, donc ouais. Voilà.
En fait, la Cité de la Voile, on a de la chance, j'en profite pour redire que nous avons un partenariat avec Canopée et avec la DSDEN 56 depuis plusieurs années. Hein, donc nos contenus sont expertisés et on travaille en lien avec les conseillers pédagogiques. C'est vrai qu'on a la chance déjà d'avoir un littoral, une géographie très particulière qui s'y prête. Hein, puisqu'on a une rade qui permet aux bateaux de rentrer, même avec des tirants d'eau assez importants. Une volonté aussi de transformer un site historique très fort, marqué par cette ancienne base de sous-marins, marqué avec une histoire militaire très forte, qui pouvait paraître sans doute très austère aux plus jeunes, et aujourd'hui qui est en train de se transformer complètement en pôle nautique de course au large. Ça, c'est vrai que ça draine un vrai intérêt des jeunes, parce qu'il y a le côté dynamique sport qui fait que c'est une porte d'entrée facile à prendre pour après traiter de nombreux sujets. Bien entendu, il y a toute la partie environnementale qui est de plus en plus demandée. Là, je vois concrètement, quand on a débuté avec la Cité de la Voile, on était très course au large. Aujourd'hui, la démarche, elle est beaucoup plus ouverte, avec beaucoup d'ateliers, de visites sur l'environnement, évidemment, sur les microplastiques. Mais aussi, et ça j'insiste, ce qui est dans ce que vous dites et dont j'ai la preuve chaque jour, c'est que nous, les projets sont très transversaux, très pluridisciplinaires. Et quand des enseignants viennent nous voir, c'est d'une part parce qu'ils trouvent de la matière pour illustrer les notions du programme, très concrètement. Alors ça peut être des besoins très techniques parfois d'enseignants de collège, lycée, sur les biocomposites, sur des choses très 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 pointu, et ça peut être aussi justement très très large sur des projets d'année, parce que typiquement sur une course au large, eh bien, on va pouvoir travailler sur un tour du monde par exemple, on va travailler les mathématiques, on va travailler la géographie, on va travailler l'histoire, la géopolitique bien sûr, l'aspect sportif, mais aussi effectivement l'économie du nautisme. Et c'est vrai que là, on voit cette montée métier, en particulier au niveau collège, de ce nouvel intérêt. Moi, je ne le voyais pas il y a quelques années. Et puis, les chantiers se sont développés. Sans doute qu'il y a aussi, ils paraissent moins difficile. Enfin, je pense que de prime abord, ça paraît sans doute un peu plus sympa aux collégiens d'aller travailler dans ces milieux-là, parce qu'ils ont cette vision de compétitivité aussi, je pense, de chantier. On ouvre les chantiers sur la base de sous-marins. Pardon, donc ils voient à quoi ça peut ressembler aussi. Et la dimension voyage imaginaire qui reste très forte. Nous, on a des projets où on embarque, si je puis dire, des profs d'art plastique avec des profs de techno et avec des profs de maths. Et c'est très, très riche, quoi. Hein, on sait d'où on part, mais des fois, on ne sait pas où on arrive.
Ce qui est parfois pas si mal.
Non, c'est... Voilà. C'est...
La transdisciplinarité, c'est l'inspecteur général, dans ces programmes et dans ces nouveaux programmes, et quelque chose que l'on voit, que l'on lit, et comment vous exactement vous la qualifiez dans ces nouvelles dimensions.
Je ne parlerai surtout pas de transdisciplinarité, parce que la transdisciplinarité, c'est la confusion entre les disciplines, mais d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité. Mais la vraie question, c'est celle-là. On enseigne l'histoire, et quand on enseigne l'histoire, il faut dire ce qu'on fait, quelle est la démarche. On enseigne de la géographie, on dit quelle est la démarche du géographe. On enseigne des sciences politiques, on enseigne des sciences de l'environnement. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appellerait dans la marine des routes de convergence. À savoir, chacun suit sa démarche et on regarde en quoi les démarches peuvent s'appuyer les uns les autres. La profondeur de champ historique, pour montrer que la France a joué et joue encore son destin sur mer. La profondeur de champ géographique pour expliquer les routes, les ports, les caps, les seuils, les détroits, l'ensemble de ces passages qui font au fond que la mer est une ligne de vie et une ligne de mort en même temps. Naturellement, les sciences politiques, la géographie politique pour montrer que toutes ces routes sont encombrées, traversent des zones dangereuses, détroit de Malacca, détroit de Babel-Mandeb, par où transite 80% du pétrole chinois, par exemple. Là, ce sont des éléments qui sont extrêmement concrets, extrêmement importants. Mais pour revenir à ce que mes deux partenaires disaient tout à l'heure, l'éducation nationale est aussi, même si c'est quelque chose qui n'est pas la finalité exclusive de nos enseignements, dans une logique de métier. Or, pour attirer les jeunes vers la mer, il faut la leur faire connaître. Alors, la faire connaître in concreto, si je puis dire, en la faisant expérimenter ce que c'est que la mer, parce que la mer, c'est le respect des éléments, c'est le sens de l'équipage, c'est le sens de l'effort, de la rigueur, de la ténacité, c'est la discipline. La discipline, c'est bien. L'ordre, la rigueur, c'est des choses qui s'apprennent en classe, qui s'apprennent dans la famille, mais qui s'apprennent aussi, et la mère les apprend. Alors, la mère, c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle les apprend. Et à partir du moment où on comprend ça, ça forme pour la vie, et pas seulement pour les métiers de la mer, mais ça permet aussi de montrer à nos élèves qu'ils ont, si je puis dire, avec la mer, une espèce d'horizon d'attente. Parce que la mer, c'est le choix des possibles. La mer réintroduit la faculté pour l'homme de peser sur son propre destin. Et dans les temps que nous vivons, qui ne sont pas simples pour nos élèves, dans nos banlieues, ou même dans les centres-villes, ou dans les milieux ruraux ou semi-ruraux, avoir cette dimension en classe, en dehors de la classe, grâce aux collectivités territoriales, grâce aux opérateurs publics et grâce aux associations, ça leur donne une ouverture absolument extraordinaire. Moi, je suis très frappé d'avoir lancé ces affaires de l'enseignement de la mer. Je suis très frappé de la façon dont ça prend, y compris d'ailleurs dans certains endroits de littoraux, je ne citerai évidemment nulle part, où on connaît peu la mer, bien qu'on soit au bord de la mer, il faut le reconnaître, mais dans l'Académie de Créteil, que nous connaissons bien, ou alors en Alsace ou dans le Nord, il y a un engouement pour les choses de la mer qui est absolument formidable. Et notre ministre a fait de cette redécouverte de la mer et de ses métiers un des éléments les plus forts qui soit. L'économie maritime crée aujourd'hui plus de métiers que l'économie sur terre. L'économie maritime, c'est plus d'emplois que l'industrie automobile, qui en crée peu, c'est peu de le dire, qu'elle en crée peu, elle en détruit même, si je puis dire. Il y a un foyer très large de l'économie maritime, c'est pas seulement les chantiers navals, pour important que vous les citiez, madame, mais c'est aussi le nautisme, c'est aussi les industries de la plaisance, du tourisme, de l'environnement. Les industries de l'environnement maritime sont en France en plus extraordinairement développées. Donc il y a un potentiel formidable. Mais pour ça, je crois qu'il faut commencer par convaincre les élèves par tous les moyens dont nous disposons autour de la table, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs, hein, et que tout ne se fait pas dans les classes. Il faut être absolument conscient de ce genre de choses. Et en unissant nos efforts, on fait prendre conscience aux élèves, plus facilement d'ailleurs qu'à leurs parents, souvent, de cet enjeu et de cet avenir qu'est la mer.
Voilà. Madame Morin, justement, alors, l'entrée métier. Comment aujourd'hui, à la place qui est la vôtre, on a un regard sur les métiers maritimes dans un sens, j'ai envie de dire, évolutif. On n'est plus sur les mêmes métiers qu'hier, même si on est encore sur les métiers d'hier. Alors, est-ce que ce sont des métiers qui doivent s'adapter? Est-ce que ce sont des métiers qui ont changé? Est-ce que ce sont les mêmes avant? Et par ailleurs, on le disait... Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas forcément toujours à trouver toute la main-d'œuvre dont on vient de parler, puisque les industriels maritimes le disent, mais d'autres également. Donc, en quoi un responsable politique, donc c'est important, puisqu'il impulse des politiques, etc. En quoi aujourd'hui, quelle vision il a sur ces métiers, et en quoi aujourd'hui il essaie, avec des partenaires, jamais tout seul, en premier lieu l'éducation nationale bien sûr, de s'adapter à ces nouveaux enjeux?
Eh bien, on a un gros travail à faire sur la représentation des métiers. C'est ça, c'est... Alors, pas que les métiers de la mer, du reste, mais surtout sur les métiers de la mer dans nos départements où il y a un vrai potentiel et où, vous le dites très justement, ce sont des industries qui ont du mal à recruter. Alors, ont du mal à recruter la construction navale, mais aussi les marins-pêcheurs. Il y a beaucoup de marins-pêcheurs qui s'inquiètent de la transmission de leurs bateaux. Ça devient compliqué puisqu'on voit arriver des marins de pays subsahariens pour venir aider les équipages au large de la Turballe parce qu'on ne trouve pas cette main-d'œuvre. Alors il faut faire un gros travail sur la représentation, sur l'égalité hommes-femmes aussi, puisque les métiers de la mer sont ouverts, je le rappelle, autant aux femmes qu'aux hommes. Et donc, ce travail nous incombe. Enfin, on a une responsabilité par rapport à ça. Et donc, on y répond comment? Alors, j'ai parlé du stage 3e. C'est une piste, mais ce n'est pas suffisant. C'est des stages d'observation qui durent une semaine, qui sont extrêmement importants, qui font partie du parcours à venir des jeunes. Et qui, moi, je me félicite de ce partenariat qu'on a avec l'Éducation nationale sur le parcours de ces jeunes dans leur cursus scolaire. Donc c'est essentiel et donc on doit apporter, on a été je dirais un peu la Loire Atlantique, un peu d'ailleurs précurseur dans cette plateforme stage 3e puisque ça va faire 3 ans qu'elle existe, où justement des métiers de la mer notamment peuvent mettre en ligne leur métier pour justement attirer les jeunes. Il y a ça, mais il y a aussi, on fait des visites d'entreprise, enfin on fait des visites, des visites des chantiers, des visites de construction navale, des visites des ports. C'est comment on attire ces jeunes. Et, on a, et puis aussi, on a les classes découvertes. Les classes découvertes, c'est donc on travaille aussi sur un chantier avec l'éducation nationale, sur ce chantier-là. Et là, les classes découvertes, pour moi, c'est quand même quelque chose de très moteur pour les jeunes. D'abord parce que c'est souvent le début de l'autonomie. Et c'est comment on les amène à vivre. Donc moi, j'ai souvent dit... pourquoi amener des jeunes de Loire-Atlantique dans des classes découvertes loin de chez eux alors que pour la plupart ils ne connaissent pas la proximité, l'existence d'activités maritimes. Donc pourquoi pas commencer par déjà d'abord pour un problème de coût aussi, problème de logistique. Et lorsqu'il y a eu justement suite aux attentats qui se sont déroulés en 2015 où les voyages à l'étranger devenaient difficiles, moi j'ai dit attendez, si on leur permettait d'aller faire de la pêche à pied, si on leur permettait d'aller faire de la voile pendant 8 jours, on a ça sur place, on a des centres sur place. Et ça a été formidable. Parce qu'on a des jeunes. Et les jeunes, vous le disiez, les jeunes sont pour moi sont des ambassadeurs. Ça reste des ambassadeurs dans leur famille. Ce qu'ils apprennent à l'école, ils le portent chez eux aussi. Et au fond, on a découvert des jeunes qui habitaient à 30 km de la mer et qui, pour la première fois, se mettaient les pieds dans le sable. C'est ça quand même aussi, c'est une réalité quand même. Il n'y a pas que des enfants privilégiés, on a des enfants qui sont parfois en difficulté sociale. Et donc c'est comment on les amène aussi à découvrir ces métiers, comment ils découvrent des choses, ils découvrent cet horizon, ce champ des possibles que vous dites. Pour moi, effectivement, la mer, c'est le champ des possibles. Et c'est comment on les aide à découvrir ça à travers... Alors, ça peut être une classe découverte, ça peut être une visite, ça peut être le stage 3e. Donc c'est comment on met les moyens à disposition des établissements, puisque nous on met les moyens, les chefs d'établissement restent autonomes dans la gestion de leurs élèves et de ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent leur emmener. Mais je dois dire qu'on a vraiment un vrai partenariat très très proche et très efficace pour justement permettre aux jeunes de découvrir leur environnement. Et moi, je veux rappeler, au-delà du fait des mers, c'est ce jeune qui manifeste dans la rue en vue de préserver leur planète. On sent bien qu'au fond, à travers cette éducation-là, on crée des choses chez les jeunes. Et donc, c'est comment on aide à développer ce... Alors, je parle de citoyenneté. Moi, je dis souvent que nos collégiens, C'est un terme que j'ai utilisé très vite quand j'ai pris mes fonctions, sont des apprentis citoyens. Et donc, cet apprentissage de citoyenneté, découvrir leur environnement maritime, en fait partie pleinement.
Je voudrais juste pour compléter un petit peu ce travail fait, ces stages, ces présentations d'entreprise et tout. Est-ce que vous avez des retours des collégiens, des surprises des collégiens? Est-ce que vous sentez des tendances qui sont, encore une fois, peut-être au-delà des enjeux écologiques dont on a parlé, effectivement, qu'on voit très très présent dans la presse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, pour dire des choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans ces découvertes-là, ou est-ce que c'est, j'aurais envie de dire, relativement classique sur les attentes et besoins des jeunes pour vous?
Moi, il y a des découvertes d'abord parce que moi-même, j'ai découvert des métiers. D'abord, j'ai découvert parce
vous-même.
Qu'aujourd'hui, moi-même.
C'est intéressant.
Et je dirais même qu'au fond, sur la représentation des métiers, il faut travailler avec les jeunes, mais il faut aussi travailler avec leurs parents. Parce que les parents sont aussi les vecteurs et conditionnent un peu l'avenir des jeunes. Et c'est comment, au fond, on leur montre également déjà aux adultes quels sont les métiers. Aujourd'hui, les métiers de la chaudronnerie, j'ai visité les chantiers d'Atlantique il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le président il n'y a pas très longtemps. Et je suis allée dans un atelier qui fait partie de construction. Et il disait, il y a 20 ans, il y avait 300 personnes dans cet atelier. Aujourd'hui, ça fonctionne à 30. Et donc il y a des ponts roulants partout, tout est très automatisé. Et donc quand vous amenez des adultes ici, enfin moi-même, on est surpris parce que l'image qu'on a du métier difficile, de la chaleur, des conditions de travail compliquées, c'est plus toujours ça. Notamment je pense à tous ces métiers de la chaudronnerie ou même de la métallurgie qui ont bien évolué et qu'au fond, aujourd'hui, les jeunes sont surpris. Donc il y a de l'adhésion. Oui, il y a de l'adhésion chez les jeunes. Et c'est très important parce que c'est comment aussi derrière cela, ça leur donne des ouvertures. Et comment souvent, je dirais même, les bonnes surprises qu'on a, c'est quand certains élèves viennent faire un stage de 3-4 jours et reviennent et on sent qu'on a donné du sens à leurs études. Parce que certains, quand on a 14-15 ans, c'est parfois un peu compliqué. Je ne veux pas parler de décrochage, mais il y a un moment où il y a une lassitude. Et certains, les bonnes surprises, c'est ça, c'est comment on redonne du sens à leurs études et comment on sent qu'on leur a redonné, on a redonné du sens. Et là, la partie, elle est gagnée.
Très bien, merci. Madame Tressé, vous recevez des classes, donc c'est bien ça. Bon, alors, c'est quoi votre surprise quand vous les accueillez, quand vous les voyez partir?
Je pense que déjà, le grand remerciement, c'est de voir dans leur regard, effectivement, l'émerveillement. L'émerveillement, la curiosité, et je pense, comme vous dites, qu'à chaque fois, ils sont surpris. Alors, souvent,
ça attire la mer,
ça fait peur. Enfin, effectivement, il y a toutes ces émotions aussi, il y a de l'appréhension. Nous, on reçoit aussi beaucoup d'enfants qui font le cycle voile, puisqu'en fait, la CELOR, elle gère à la fois les activités muséographiques, mais aussi les activités nautiques. Et alors, je ne sais pas si c'est... en tout cas, sur le littoral, on a cette chance pour les cycles 3 d'avoir le cycle voile, le cycle kayak. Donc, c'est vrai qu'autour de ça, il y a la pratique sur l'eau, parce que l'objectif, c'est quand même après qu'ils pratiquent et de leur donner cette possibilité-là, mais aussi de leur faire comprendre pourquoi ils sont sur l'eau, d'apprendre la météo, d'apprendre ce qu'il y a sous l'eau, ce qu'il y a une fois qu'ils ont maîtrisé leur bateau, d'apprendre une discipline, comment à bord on fonctionne, les postes à bord, la notion d'équipe, de collectif, tout ça qui est très très forte. Bien sûr, toutes les technologies de pointe, là, avec les foils, là, on en parlait tout à l'heure, ça les passionne parce que ça va vite, c'est impressionnant. Ils ont besoin de quelque chose, de choses impactantes comme ça pour adhérer. Évidemment, toute la partie environnementale qui est très très forte. Donc nous, concrètement, on a des ateliers, des visites. Chaque année, on les aménage selon les programmes. Là, l'année dernière, on a créé les ateliers microplastiques. On a créé des choses très intéressantes aussi. Je pensais le lien entre le bateau et l'usage des bateaux, le type de bateau et ce qu'on en fait. Pareil, à la Cité de la Voile, sur l'Orient, la base, en fait, on a beaucoup d'acteurs du nautisme qui sont venus s'installer et on fait une visite en extérieur, où on met en rapport en fait cette évolution économique qui répond à des besoins qui ont émergé avec l'arrivée de la Cité de la Voile et de tous ces bateaux que ça a drainé. Donc bah, maintenant, oui, il faut du lyophilisé parce qu'en mer, pour aller vite, quand je parlais de pluridisciplinarité tout à l'heure, et ben, les gamins, ils comprennent que si un bateau veut aller vite, il faut qu'il soit léger. Donc il ne va pas pouvoir embarquer comme au 18e ou au 16e des centaines de tonnes de nourriture. Non, l'avitaillement, ça va être du lyophilisé. Il va consommer que 6 litres d'eau par jour parce qu'on désalinise l'eau et comment marche un désalinisateur. Donc voilà, c'est toutes ces notions-là. On ne mange pas pareil quand on est dans les mers du sud, quand on est à l'équateur. Donc on apprend les longitudes, les latitudes, se repérer en mer. Donc évidemment, on ne raconte pas tout ça. Il y a les progressions des programmes. Mais voilà, on s'adapte, on travaille avec les enseignants, avec l'éducation nationale et avec cette idée quand même aussi de pratique sur l'eau et de découverte du monde.
Alors je vous propose, la fin arrive assez rapidement, vous voyez, donc je vous propose un petit peu un dernier tour de table autour de, parce qu'on disait tout à l'heure, monsieur, quand on cite Maud Fontenoy, sauver l'océan c'est sauver l'homme, ou dire que la mer c'est la vie. Les trois militants que vous êtes autour de la table, j'emploie bien le terme militant, de manière volontaire, bah, quand on entend la mer c'est la vie, c'est qu'on y croit, mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi on y croit et pourquoi on veut faire passer, pourquoi ce passage vers les jeunes et vers leur éducation?
Oui, alors, on voit bien là que la mer est une passion. Ouais. Et de toute façon, bon, on ne fait rien sans passion. Passion raisonnée naturellement, mais passion tout de même. Moi, il y a trois éléments que je relèverai un petit peu de ce que j'ai entendu, des éléments qui ont trait à la connaissance, des éléments qui ont trait à la culture et des éléments qui ont trait au comportement. Il y a d'abord des éléments qui ont trait aux connaissances. La mer, ça se connaît et ça s'apprend. On ne peut pas se lancer en mer comme ça sans avoir des savoirs, sans avoir des choses qu'il faut connaître, qui s'appellent le respect, qui s'appellent la discipline, somme de connaissances qui débouchent ou non sur un métier, mais qui seront utiles ou non partout. Quand on l'apprend dans la marine, on sait le faire n'importe où. La deuxième chose, c'est une culture. Dans le monde dans lequel on vit, la mer, ça apprend l'honneur et la gratuité, qui sont des éléments indispensables de la culture d'un citoyen. Vous parliez, madame, de citoyenneté maritime. C'est un très beau terme que j'achète. Enfin, que j'achète pas, parce que vous ne le vendez pas, mais je vous le prends. Honneur et gratuité, ce sont ces trois marins de la Société nationale de sauvetage en mer qui meurent pour sauver leurs concitoyens. Et c'est la gratuité, parce que l'effort, la rigueur, il y a des choses. Tout ne se vend pas, tout ne s'achète pas. Je crois, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est jamais mauvais, me semble-t-il, à dire, et c'est l'honneur aussi de l'école et de ses partenaires, au premier rang desquels les collectivités territoriales et les associations, de le rappeler. Et puis c'est une somme de comportements. Une somme de comportements qu'on peut naturellement apprendre et intégrer. Nous vivons dans un monde où l'anomie, l'absence de normes, l'absence de responsabilité, l'absence de ces notions d'autorité, de respect, arrive. En mer, vous avez rappelé la notion d'équipage, nous formons un tout, de la passerelle à la soute. Tout le monde est engagé pour la même chose et on gagne tous, contrairement à ce que dit la Bible, tous moururent et chacun tout seul, on est là dans une autre perspective. Et ligne de vie, ligne de mort, il y a aussi le tragique de la mer, mais il y a aussi tout ce que la mer apporte de richesse, et pas seulement de richesse matérielle, je crois qu'elle apporte aussi beaucoup de richesse immatérielle.
Nora, quelle militante de la mer êtes-vous?
Écoutez, moi je suis, j'aime bien ce que vous avez dit sur cette mer gratuite, sur cette mer pour tout le monde, mais aussi cette mer qui fait qu'il y a un brassage. C'est ce brassage de gens, de civilisations, à travers, par la mer, on peut aller d'un continent à l'autre. Alors après, bon, ça n'est pas sans rappeler aussi ce qui se passe ces dernières semaines en Méditerranée, sur le drame vécu par ces migrants qui prennent la mer, mais contraints et forcés, parce qu'ils fuient les dictatures, ils fuient des vies difficiles. Et c'est comment voilà, les traversées sont parfois, alors pas gratuites pour le coup, là où il y a de l'exploitation. Mais ça n'empêche que voilà, la mer, c'est celle qui devrait relier les hommes entre eux et qui parfois ne joue pas toujours son rôle. Donc c'est comment on travaille, on fait en sorte de rassembler les peuples et non pas les diviser par la mer. C'est ce que je retiendrai. Je voudrais juste dire un petit mot militant, puisque en tant que militante, c'est que le président tout à l'heure a remis deux chèques. Un chèque au sauveteur de la mer, à la SNSM, de 500 000 euros hein, lors d'une petite manifestation tout à l'heure. Et également la même somme, 500 000 euros, à l'association SOS Méditerranée. C'est bien, voilà, on veut montrer par là que la mer doit être aussi source d'humanisme et source d'entraide. Et donc, ça, j'y suis très attachée.
Merci beaucoup, Madame Tressier. Vous avez le mot de la fin.
Ouais. Alors moi, pour moi, la mer, c'est l'horizon. Je reprends l'idée que c'est le champ des possibles. Et dans tout ce que je vois, dans le regard des enfants qui arrivent des fois un peu la tête baissée, que, quand ils viennent en visite, bon, ils n'ont pas eu le choix. Hein. On leur a dit d'aller à la Cité de la Voile. Ou voilà. Et puis ben, ils ressortent, ils ont la tête haute, face à la mer, parce qu'on est dans une belle situation aussi. Et voilà, avec plein d'envie, plein de rêves, plein de possibles. Et voilà, c'est ça qui donne envie de continuer et qui donne de belles perspectives.
Alors on pourrait conclure tous les trois qu'enseigner la mer, c'est tête haute.
Ouais,
on est d'accord. Alors je retiendrai moi personnellement ça parce que au-delà de l'image, je pense que c'est vraiment tête haute. Je vous remercie beaucoup tous les trois.
Merci. Et puis,
merci beaucoup.
À bientôt vers d'autres aventures maritimes, sans aucun doute. Merci beaucoup. Et merci. Tête haute surtout. Merci.